Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. À suivre dans quelques secondes, Eva Rock pour son zapping du lendemain, aujourd'hui pharmaceutique, et Bertrand Chameroy pour son écran de veille, aujourd'hui bucolique. Ensuite, le comédien Vincent McCain pour le très attendu film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. C'est signé Emmanuel Mouret. Et les choses qu'on va dire et faire, c'est Hélène Manarino qui va nous dresser son portrait inattendu. Et puis, dans nos indispensables, une humoriste trash présentée par Louise Bernard et les 35 ans d'un jeu vidéo mondialement connu, avec Clément Le Saffre. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes dissipé aujourd'hui, et c'est pas pour me déplaire. Bonjour. Bertrand Chameroy.
Bonjour.
C'est votre écran de veille, Bertrand. Vous avez de bons yeux, on le sait, mais un mauvais esprit. Qu'avez-vous regardé à la télé hier?
Philippe, vous le dites quotidiennement, Eva Rock a toujours un temps d'avance. Ouais. Je le confirme avec son zapping du lendemain. Elle est un peu mon doc de retour vers le futur. Dimanche, elle m'a appelé pour me dire « Nom de Zeus, Chami, je reviens du futur. Tu devrais regarder L'amour est dans le pré lundi, c'est formidable !» Elle disait vrai. Hier, c'était donc le retour de L'amour est dans le pré pour une 15e saison. Le temps passe à une vitesse, mais les fondamentaux restent. Des agricultrices, des agriculteurs célibataires à la recherche de l'amour, des courriers du cœur. Le premier rendez-vous, les hésitations, les tâtonnements, les yeux qui pétillent, du romantisme à foison, des mots doux. Et puis il y a les mots de Laurent. En un seul épisode, il a déjà gagné son statut de chouchou dans mon cœur. Ça va madame, vous voulez un verre d'eau?
Non, je vous écoute.
Pourquoi vous êtes morte de rire, Eva?
Parce qu'il a raison, Bertrand, le candidat Laurent est exceptionnel. Voilà.
Laurent, mon chouchou, grâce à des phrases comme celle-ci.
Ça, c'est du charme en bas et de l'amour en bas, tout, pire que du shit.
T'es oui. Pire que du shit, elle est pas mal celle-ci. Mais derrière ces punchlines de booba rural, Laurent est un grand stressé. Et pour évacuer son anxiété, il boit de l'eau, beaucoup d'eau. Résultat, après son premier rendez-vous sur une péniche...
C'est con qu'on peut pas pisser à la Seine. Non, j'ai trouvé un buisson, ouais, j'ai besoin de mettre mon sexe dans un buisson. Voilà, personne me voit là. Ça va te faire une tâche, mais bon, allez hop, on aura du truc. Prends le matos, c'est rangé, c'est parti.
Alors, je précise pour nos auditeurs qui prendraient la chronique en cours de route que quand Laurent dit « j'ai besoin de mettre mon sexe dans un buisson », il parle bien d'uriner. Oui. Non, parce que sorti de son contexte, bon, bref. Veni, vidi, vessi, après s'être... Bonne année 84. Ouais. Après s'être soulagé, l'ami Laurent a eu la riche idée de reboire un jerrycan d'eau et forcément...
Ouais, faut que j'aille repisser un coup, là. Chier. Ouais, la pissouille, après vous allez m'appeler la pissouille. À force de pisser, voilà. J'ai pété le bouton du pantalon.
Oh là là. Le charme à la française. Mais dans ce domaine, Laurent a un sérieux concurrent en la personne d'Éric.
J'ai vu que tu fais aussi du ramonage.
Ah, je fais le ramonage, on les intéresse quand même. Hein. Ça, ils aiment ça, le ramonage.
Gentleman. Ouais. L'amour est dans le pré.
Elle lui a tendu la perche, j'ose dire.
Oui. L'amour est dans le pré, c'est aussi de la musique. C'est quand même à cause de cette émission que le lundi, pendant des années, on s'est couché avec James Blunt dans la tête. Alors le générique a changé il y a 4 ans, mais la musique continue de jouer un rôle important dans le programme, notamment pour illustrer des séquences, comme par exemple ici, avec l'arrivée d'une prétendante colombienne. Tendez l'oreille et essayez de reconnaître le morceau. Eva, Philippe, toi, Eva, spécialiste des séries.
C'est si, je sais en plus.
C'est la BO de la série Narcos. Consacrée à Pablo Escobar pour la candidate colombienne.
Le trafiquant de cocaïne.
Voilà. Et pour ceux qui n'auraient pas saisi cette subtile allusion, ils en ont remis une couche lors de son arrivée chez son prétendant avec un autre titre.
Ah bah oui, tu fais ton boulot. Titi, c'est une copine.
J'ai reconnu. Cocaïne
d'Eric Clapton. Elle devait être sympa à la réunion en montage. Elle est colombienne. Bah, Colzy, la musique de Narcos, c'est cocaïne de Clapton. Bah, quoi, la Colombie, c'est la coke? Non, bah alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Et pour l'allemande, là, t'es gentil, tu me mettras le générique de Papa Schulz. Hein. Allez, amour, gloire et cliché, c'était le premier épisode de L'amour est dans le pré.
Vivement la suite, merci beaucoup, oui. Bertrand, Eva. Il l'a dit, Chameroy, avec vous, on a un temps d'avance, grâce au zapping du lendemain. Et donc, en ce mardi, quels sont les programmes qui ont retenu votre attention, le thème?
Alors c'est beaucoup moins drôle aujourd'hui, je vous propose quand même de tout foutre en l'air, tout foutre en l'air, comme Arnaud Ducré qui est dans la peau de Christophe de Salin, copie conforme de Xavier Dupont de Ligonnès, marre de la famille, marre de ne pas réussir sa vie professionnelle, marre des problèmes d'argent et l'envie donc de tout foutre en l'air.
Ta société elle marchera jamais Christophe, jamais, tu m'entends?
Ouais t'as raison, vas-y attaque-moi, de toute façon pour où j'en suis, j'ai plus un rond, plus aucun recours, je vais me foutre dans le décor avec ma bagnole comme ça ma femme et mes enfants toucheront l'assurance vie. Ou alors je brûle la baraque avec tout le monde dedans. Comme ça, c'est enfin terminé, on n'en parle plus.
Série diffusée sur M6, réalisée par Pierre Aknin, qui était votre invité hier, Philippe.
Exactement.
Fiction inspirée donc de l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, pardon, sous un angle très polar. Tout foutre en l'air pour disparaître donc, et tout foutre en l'air pour ne plus entendre ce qui va suivre aussi. Arte propose un documentaire remarquable intitulé Big Pharma, ou comment les laboratoires pharmaceutiques au fil du temps ont oublié les patients pour ne s'occuper que des actionnaires. C'est le cas de Martin Sreli. Il est patron d'un labo qui commercialise un traitement pour des personnes atteintes du VIH. Écoutez bien, le prix est passé de 13,50 $ la pilule à 750 $ sous la présidence de ce monsieur. Et quand on lui demande s'il ne regrette pas d'avoir augmenté autant les prix, réponse.
J'aurais pu augmenter le prix et faire encore plus de profit, ce qui est mon objectif principal. Personne ne veut le dire. Personne n'en est fier. Mais nous vivons dans une société capitaliste avec des règles capitalistes et ce que veulent mes investisseurs, c'est que je fasse un maximum de profit. Pas que je fasse un minimum, ni la moitié, ni 70%. Ils veulent 100% de profit.
J'ai juste fait le calcul, c'est 55 fois
exactement,
plus cher.
Exactement,
c'est dingue.
C'est dingue. Il est considéré comme l'homme le plus détesté des États-Unis et il est actuellement en prison pour une affaire de fraude. Il purge une peine de prison de 7 ans. Je suis à deux doigts de vous dire, bien fait. Tout foutre en l'air, donc, c'était bel et bien un des messages du mouvement MeToo aussi, sur lequel revient France 5 à travers un documentaire qui a l'intelligence de donner la parole aux femmes et aux hommes. MeToo, c'est bien, mais pas suffisant, comme le raconte Léa, jeune femme, élève de Saint-Cyr, qui a osé dénoncer le comportement des hommes dans cet établissement de prestige.
Pour moi, il est certain que MeToo a été une grosse vague qui a libéré pas mal de paroles. Mais derrière les paroles, il y a les actes aussi. Et ça, parfois, même si on entend plus parler de harcèlement moral, harcèlement sexuel, et qu'on a plus de chances d'être écouté, c'est pas une vague qui a tout rasé et qui va faire que là, dans 10 ans, tout sera parfait.
Tout foutre en l'air et croire au changement de mentalité, c'est ce que chante d'ailleurs le jeune rappeur Vince dans le même documentaire.
Dans ce décor, il est temps qu'on casse des portes. Tant d'entre elles balancent des bords, c'est qu'à longtemps que le vase déborde. Pour tous ceux...
Je récapitule, tout foutre en l'air pour disparaître, c'est dans Un homme ordinaire sur M6 à 21h05. Tout foutre en l'air pour sauver le système de santé, c'est dans Big Pharma sur Arte à 20h50. Et tout foutre en l'air pour gagner sa liberté, c'est dans MeToo et la France sur France 5 à 20h50.
Merci beaucoup Eva Roch, merci Bertrand Chamerois. À demain, dans un instant, le comédien Vincent Macaigne sera avec nous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Vincent Macaigne.
Bonjour.
Ravi que vous soyez ici dans ce studio. Vous êtes comédien, metteur en scène de théâtre, mais également réalisateur. Selon la presse, vous incarnez comme personne dans le cinéma français les rôles de trentenaires, ils écrivaient ça, puis de quarantenaires maintenant, des rôles désabusés, anti-héros, vaguement, je cite, dépassés par les événements. Et vous êtes à l'affiche du film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, signé Emmanuel Mouret. C'est également avec Camélia Jordana et Émilie Dequesne, film qui sort demain. On va entendre la bande-annonce.
Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi?
Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance.
C'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi.
Pourquoi c'est impossible?
Mais parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi.
Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant. Ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues.
Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié.
J'aurais pas dû te dire que j'étais mariée.
Mais... Non, sinon j'aurais pas couché avec toi.
Bah pourquoi tu voulais coucher avec moi alors?
Parce que t'étais mariée. Pensant que justement, t'allais pas vouloir recommencer.
Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il? Parce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de l'accompagner de l'autre.
Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites?
L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement.
On est dans Romère, on est dans Marivaux, mais ça va bien plus loin que ça, vous allez le comprendre. Vincent Macaigne, qui est votre personnage de François? Je disais qu'on vous voyait comme un anti-héros. Est-ce que c'est là encore un anti-héros ou pas du tout?
Oh, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui tombe très amoureux et qui est marié. Donc ça lui pose quelques problèmes. Et puis c'est dur de parler de mon personnage sans dévoiler le film.
C'est très difficile. Je viens de dire que vous séduisez Daphné, jouée par Camélia Jordana. Vous quittez votre épouse, enfant pour elle, pour faire un bébé. Mais comment dire, ce qui est très intéressant dans ce film, ça juge aucun des personnages. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant.
Non, et surtout, en fait, le cinéma d'Emmanuel Mouret, il a son image, c'est-à-dire qu'il est très tendre, très amoureux de l'amour et amoureux des gens, en fait. Et fait, le film, je suis d'accord, il y a quelque chose de Marivaux, enfin, des Marivaux d'âge, mais ce film-là, il devient de plus en plus profond, plus le film avance, plus il devient ample, et plus ça devient un grand film sur le sentiment amoureux et l'amour avec un grand A.
Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des points de vue sur l'amour, des points de vue sur le désir qu'on n'entend pas, ou plutôt qu'on n'entend plus. Exemple de conversation.
Pourquoi être contre les affinités ?
Est-ce que c'est immoral ? Chercher quelqu'un en fonction de ses intérêts, c'est rien d'autre qu'une recherche d'intérêt. Choisir quelqu'un parce que son physique est agréable, parce qu'il aime les chats, le tennis et Mozart, c'est constituer un capital, c'est pas de l'amour.
Mais quand il y a une attirance forte entre deux personnes ?
C'est pareil. Il y a l'intérêt de combler un appétit sensuel. Prête-moi ton corps, je te prêterai le mien.
Oui, finalement, les choses étaient moins hypocrites à l'époque des mariages arrangés. Les choses étaient plus claires.
Mais oui, absolument d'accord.
La défense des mariages arrangés, c'est quand même étonnant d'entendre ça en 2020.
Ouais. Non, mais je ne sais pas s'il défend vraiment le mariage arrangé. Quoi.
Bah, elle dit au moins c'était plus clair.
Ouais. Mais oui, le film, c'est une. C'est...
Parce que tout le monde se bat. Je vais expliciter le titre. Mmh. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est la différence. C'est comment on se bat avec sa conscience, comment on se bat avec les idées qu'on a. C'est ce refus de cohérence qu'il y a parfois et cette injonction de cohérence.
Avec la morale, avec les idées reçues sur le couple, les idées reçues sur l'amour et le vrai sentiment amoureux. Ce que c'est que le sacrifice aussi dans l'amour. Le rôle d'Émilie Duquesne dont
on peut pas trop raconter parler. Parce que c'est tellement beau, ouais. On peut pas le dire, je suis voilà. Dans la même situation que vous, je peux pas raconter le film.
Voilà, ouais, mais en tout cas la fin du film prend une sorte d'ampleur parce qu'il va vers ce que c'est que le vrai amour et le vrai sacrifice, quoi.
Dans le film, j'ai l'impression que les hommes sont plutôt des victimes et que ce sont les femmes qui décident et qui font les choix. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je l'ai vu comme ça en tant que garçon?
Ouais, c'est pas faux. En fait, en même temps, quelque part, le rôle de Camille Jordana est un peu amoureuse du réalisateur
qui tourne un documentaire sur un philosophe.
Ouais, voilà.
Qui est extraordinaire. On parlera de philosophie après.
Ouais. Et donc elle est monteuse, enfin dans le film, et elle tombe un peu amoureuse du réalisateur. Et il y a une scène un peu cocasse où le réalisateur l'invite à dîner et lui dit voilà, faut vraiment que je parle. Elle croit que
Dites pas tout. J'ai trop envie de raconter et j'ai trop envie que vous racontiez pas. Ouais. Vous restez avec nous, Vincent Macaigne. Il y a Hélène Manarino. J'ai trop envie de savoir ce qu'elle va dire de vous. C'est votre portrait inattendu. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Vincent Macaigne, comédien à l'affiche du film, le dernier film très attendu d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, avec Camélia Jordana, Nils Schneider, je ne l'ai pas dit, Émilie Dequesne et également Julia Piaton qui est absolument excellente. Je vous présente Hélène Manarino.
Bonjour. Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Vincent Macaigne, je suis là pour dévoiler tout ce que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Vincent Macaigne, ou plutôt le rêveur aux chansons romantiques. Sarà perché ti amo, que vous mettez en soirée à chaque fois depuis des années. Une chanson qui vous colle à la peau.
C'est vrai, ouais.
Et on veut savoir pourquoi.
Ah oui, pourquoi?
Parce qu'elle me rend heureux, je la trouve joyeuse, cette chanson, non?
Oui, je suis d'accord.
Ouais. Depuis quel âge?
Chanson italienne.
Oh, depuis longtemps, mais je crois que j'ai dû la découvrir avec le film. Elle était dans un film. J'ai peur de dire le nom du film parce que j'ai peur de dire une connerie. C'est pas dans L'Effronté, c'est ça?
Ça, je saurais pas vous
elle
dire.
Elle est dans Haute Tension. Bref. Explication donnée, entrons dans le vif du sujet. Vincent Macaigne, votre monde, vous l'avez créé. Enfin, votre bulle, un peu tête en l'air, oui. Vous êtes capable de laisser votre scooter pendant un an en bas de votre immeuble car vous avez perdu la clé de l'antivol et vous avez la flemme de le bouger.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai.
Attendez, il n'a pas été volé ?
Non, il a été démonté petit à petit, quoi.
Voilà.
Il a été volé par petits bouts.
Il
a été volé.
Il reste le cadre, en gros. Il reste le cadre et la plaque d'immatriculation.
Il reste l'antivol.
C'est le plus dur à voler, c'est l'antivol.
Oh, une bulle remplie de sel. Et oui, depuis tout petit, vous remplissez véritablement vos repas de sel, sans goûter avant. Un repas salé que vous commencez systématiquement par un café.
Non.
Oui,
ouais,
normal.
C'est vrai.
Ouais,
vous commencez chaque repas par un café?
Pas chaque repas, mais souvent, ouais. C'est vrai
parce que vous levez à midi aussi, non?
Ouais.
Souvent.
Non mais j'aime bien boire des cafés avant de manger, ça c'est vrai. Je sais pas pourquoi, j'aime bien.
Non, il y a les nutritionnistes qui nous écoutent et qui vont vous écrire.
Vincent Macaigne, vous avez toujours été très libre, sans trop de prise de tête. Vous êtes capable de partir au festival de Cabourg, sans valise, sans sac, sans brosse à dents. Rien. De donner rendez-vous à des amis juste pour qu'ils vous tiennent compagnie quand vous êtes en train de manger, quand vous faites des courses. Vous avez besoin de voir des gens pour alimenter votre pensée.
Attends. C'est vrai ça ?
De quoi ?
Que vous invitez des amis qui vous voient manger ? Et au supermarché ?
Non,
c'est ce qu'on dit, attention.
Oui, c'est possible que oui, pour manger, ouais, je peux inviter des. Mais non, mais ils peuvent manger avec moi, ils ont le droit de manger.
D'accord. Quand même. Genre, c'est pas le souper du roi à Versailles.
Non.
Ah bah non. Et puis, surtout, vous êtes capable de faire croire que vous êtes un grand musicien, notamment pour un film. Vous avez dit au réalisateur que vous étiez très, très bon guitariste, très bon chanteur, que vous avez reçu des prix au conservatoire. Sauf que le professeur de musique qui vous coachait s'est dit ah bah, il y a un problème, il est très mauvais. Et oui,
Par contre, pour de vrai, en guitare, j'étais pas trop mauvais.
Ouais. Mais en chant, c'était plus compliqué.
Ouais. Oui, mais j'ai jamais menti sur le chant.
C'était quel film C'était pour quel film, Hélène?
C'était Tonnerre.
Tonnerre, ouais.
Ouais. Et lorsque vous avez vu le film, vous avez dit au réalisateur bah, tu vois, je suis pas si mauvais, ouais, mais vrai. Vous avez été doublé. Alors, une bulle. Une bulle qui s'est construite dès l'enfance avec des pensées que vous alimentiez lors de vos balades, petit dans la forêt de Fontainebleau, lors de ces parties de backgammon avec vos parents également. Enfant rêveur, oui, devant ça. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Et oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Les Cités d'Or.
Ah, moi je connais pas ça.
Ah bon ?
C'est générationnel.
Oui, non, c'est vrai.
Ouais.
Année 80.
Année 80. Ouais. Un enfant qui ne s'arrêtait jamais entre vos jeux de construction, vos figurines Schtroumpf, vos peintures et surtout le portrait que vous avez peint pour votre frère sur une planche de placard. Un frère qui s'occupait d'ailleurs régulièrement de la litière de votre chat. Alors, il y a eu.
Ces aussi détails.
Le judo. Ah, bah oui, je sais tout. Le judo, le tennis, mais vous n'étiez pas passionné. Non, vous préfériez, Vincent, faire grossir cette bulle de la bêtise, comme trouver une astuce pour récupérer la monnaie des parcs-mètres. Ah oui, grâce à une carte de téléphone pliante.
Ah bon, ouais, comment vous faisiez ?
Non, mais ceci dit, ça, c'était mon frère qui faisait ça, enfin qui me faisait faire ça, parce que en fait, quand on est plus petit, j'ai un grand frère, donc du coup, quand on a des petites mains, on pouvait mettre à l'époque une carte de téléphone, bloquer la monnaie, et en mettant sa main, on pouvait faire tomber, récupérer cette monnaie-là.
Oh là là, le grand frère qui exploite le petit frère.
Et c'est possible que quand, jusqu'à un certain âge, parce qu'après, les mains sont trop grandes.
Alors, un grand frère à qui, quand même, vous avez planté la mine d'un crayon à papier dans la paume de la main droite, et il a toujours sa cicatrice. Et une vie parfois dangereuse, Vincent Macaigne, le coup de hache que vous avez reçu dans le visage à l'âge de 8 ans. Oui. Vous regardiez un peu trop près un homme coupé du bois, mais surtout votre accident de carte aux États-Unis à l'âge de 11 ans. Vous percutez donc un autre carte, les secours arrivent avec tout le matériel, matelas coquille, sirène. Vous êtes transporté à l'hôpital, pris en charge pour un bleu sur le petit orteil. Oui, ce n'est pas une blague. Bon, heureusement, Vincent, votre côté rêveur se traduit surtout dans votre âme d'enfant et votre amour pour les enfants. Vous débarquez toujours chez vos neveux et nièces, les bras remplis de cadeaux. Vous leur proposez systématiquement des activités pour la journée, comme faire de la réalité virtuelle. Vous enchaînez les imitations, les grimaces, extrêmement présents pour les enfants de vos amis également. Le doudou que vous avez offert à l'un d'entre eux est devenu même la star de la crèche, Grand Pimpin. Alors, on peut surtout retenir... Finalement, cette bulle remplie d'amour, âme discrète, secrète, même envers vos proches, on dira plutôt que vous êtes libre. Vous, vous dites souvent, les gens pensent que je suis fou. En restant dans vos pensées et dans vos rêves, c'est la plus belle folie qu'il soit.
Merci beaucoup, merci. Hélène. Réaction, Grand Pimpin.
Oui, j'ai déjà appris ça. Il paraît que ça crée des... Il paraît que c'est une petite peluche qui crée vachement de tourments dans la crèche.
Exactement.
Ouais.
Eh ben oui.
Merci beaucoup Hélène Manarino. À très vite. À suivre notre première indispensable, Louise Bernard, qui est retournée dans une salle de spectacle. Elle va nous faire découvrir une humoriste au ton très, très piquant. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Vincent Macaigne, il est à l'affiche des choses qu'on dit, des choses qu'on fait. Ça s'appelle Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait. C'est le nouveau film d'Emmanuel Mouret. Ça sort demain. Il y a une dimension, je l'ai dit, philosophique qui a été rajoutée par le réalisateur. Un des protagonistes, je raconte, il y a plein d'histoires de couple, des uns qui vont avec les autres, des unes avec les autres. Je ne raconte pas du tout ce qui se passe parce qu'il ne faut pas spoiler, comme on dit. Et cette dimension philosophique est la suivante. Un des protagonistes, c'est un philosophe sur lequel on tourne un documentaire et qu'on entend parler, et il parle de la théorie du désir mimétique, théorie qui arrive du philosophe René Girard qui nous a quitté il y a quelques années. Mais c'est quoi cette théorie du désir mimétique, Vincent Macaigne?
Ah, pas facile à expliquer. Ceci dit, je rebondis quand même sur le film.
Allez-y.
C'est le moment du film où on découvre ce documentaire. J'ai l'impression que le film tourne et va vers une sorte de grande mélancolie, de grande profondeur. Donc c'est vraiment... le moment où on rentre dans autre chose.
Je suis d'accord.
Que le marivaudage.
Quand on le raconte
film.
Comme ça, ouais. C'est pas du tout au théâtre ce soir. Il y a pas de porte qui claque avec des amants cachés derrière des paravents.
Non. Et puis on rentre dans quelque chose comme ça. Oui, non, l'amour mimétique. Bah non, mais c'est de désirer l'objet du désir que qu'un d'autre désire.
En gros, désirer le désir de l'autre. C'est assez savant quand même comme film. Hein.
C'est savant, après...
C'est enchâssé, c'est des récits enchâssés. On rencontre une personne qui raconte l'histoire d'une autre personne qui elle-même re-raconte à une troisième personne l'histoire qu'elle a eue avec une quatrième, et à la fin... Je vais pas tout spoiler, mais tout se rejoint comme dans un entonnoir.
Ouais,
c'est quand même.
Mais après sur objet d'ailleurs du désir, mais je trouve que le désir mimétique, ça rend, c'est quelque chose pour moi qui est pas totalement lié à l'amour, quoi. C'est plutôt, en effet, c'est sur le désir, quoi.
Ouais. Juste un tout petit mot sur vous, Mouret, le réalisateur, dit qu'il vous trouvait un peu jeune pour le rôle. Ouais. Il vous a fait vieillir.
Oui, il m'a peint un peu des bouts de barbe en blanc, les cheveux blancs. Mais je ne suis pas si jeune, hein, c'est juste que je n'ai pas de cheveux blancs ni de barbe blanche. Ouais.
Mais quand même, vous marchez voûté dans le film, alors que vous ne marchez pas voûté dans la vraie vie.
Oui, enfin, en tout cas, ils m'ont habillé, on a trouvé une sorte de démarche un peu pour un peu me vieillir. Mais c'est vrai que ma fille, enfin dans le film, elle a 20 ans, hein, je crois qu'elle doit avoir 18-20 ans. Donc je l'aurais eu assez jeune, quoi.
D'accord, vous avez quel âge maintenant?
J'ai 41 ans.
D'accord, très jeune. Louise Bernard.
Bonjour à tous.
On reste dans la jeunesse. Vous nous conseillez aujourd'hui un spectacle de l'humoriste Rosa Bernstein. Donc, première info, vous êtes retournée, Louise, dans une salle de spectacle.
Ouais, ça y est. Et c'était notre première à toutes les deux, en fait. Alors moi, je suis venue masquée. Et Rosa Bernstein, elle est venue en pyjama. Elle a gardé sa tenue de confinement. Pyjama accompagnée d'une robe de chambre rouge à motif écossais et chaussons douillets. Et à son arrivée sur scène, de longs applaudissements très appuyés. On sentait vraiment que la salle était ravie de revenir dans un théâtre.
Ah, ça, c'est pour l'arrivée. Mais après, il ne faut pas qu'il soit déçu en sortant du spectacle.
Non, et ça n'a pas été le cas. J'ai découvert une jeune femme à la ressemblance frappante avec la comédienne Anaïs de Moustier. Une jeune femme à l'apparence sage, polie, mais qui est capable de sortir des vannes très trash. Et c'est ça qui marche bien, hein, ce décalage un peu à la Blanche Gardin.
Ça, c'est un sacré compliment, une sacrée comparaison. Qu'est-ce qu'elle raconte alors?
Sa vie, un peu exagérée, hein, pour plus d'effets comiques. Ses galères de trentenaire aux relations sexuelles parfois désastreuses, notamment avec les artistes.
Ah, on est dans le sujet du Mouret.
Une trentenaire qui cherche l'amour et qui harcèle ses ex aussi, mais elle a une bonne excuse.
C'est ma nature. Rosa, Bernstein, Weinstein, Epstein, à votre avis, pourquoi j'ai supprimé mon affiche?
Et ce petit côté tyrannique avec les hommes, ça vient de loin. Elle a commencé après une déception amoureuse en maternelle.
Je me mets en retrait à l'école primaire, je regarde les choses de loin, je retourne au combat au collège. Au slow, pas de temps à perdre, c'est moi qui invite les garçons. Tu danses? C'est pas une question, tu danses. C'est pas parce que j'ai un appareil dentaire que je compte pas pécho. J'étais déléguée de classe pour pécho. Jonathan, peux-tu me remplir ce questionnaire sur tes profs préférés, tes activités préférées, ta musique préférée pour que j'en sache plus sur toi pour le conseil de classe?
Voilà, et Rosa Bernstein fait du stand-up depuis 3 ans seulement, mais en fait elle est comédienne depuis 10 ans et on le sent vraiment dans son jeu.
Comme j'ai un fort background théâtral, j'aime bien prendre des voix et faire des mimiques, avoir des expressions, mais je pense que c'est possible ça en repassant par des moments très simples de stand-up et que ça donne encore plus de relief. Comme j'ai joué au théâtre avec John Malkovich dans Les Liaisons dangereuses, il nous avait beaucoup appris l'insolence et l'exubérance et la folie. Et résultat, voilà, j'essaye aussi d'apporter ça dans le stand-up, de vrais moments parfois de jeu.
Et ce qui fonctionne très bien dans son spectacle, c'est l'alternance entre des blagues osées, piquantes, et puis plus de douceur et de finesse, savoir doser et surprendre. En parlant de surprendre, il y a un passage très réussi sur un sujet totalement inattendu, les Ouïghours. Mais si, vous savez, les Ouïghours.
Vous êtes au courant pour les Ouïghours? Les Ouïghours, c'est des musulmans sunnites turcophones qui sont envoyés dans les camps de travail et exterminés, disons-le, en Chine. Par contre, ça c'est vrai que tu dis à un Français Ouïghour, et là, ah ben j'en ai pris un jeudi 23, ah ben 12 heures de retard, l'Ouïghour. Puis c'était pas un direct Paris 40 ans, j'ai dû aller à Coutances en passant par Caen, j'ai raté la correspondance, 2 heures d'attente sur le quai. Merci les Ouïghours. La prochaine fois, je prends un TGV, un 1008.
Je viens de comprendre.
Oui, c'est ça, le Ouigo. C'est bon,
oui,
vous l'avez.
J'ai compris. Oui, j'avais compris. Mais je vous signale qu'une fois, Bernard Kouchner, sur une radio que je ne citerai pas, avait parlé des yogourts, en parlant des Ouïghours et du drame des yogourts. Ça. Et en toute bonne sincérité, on ne peut pas lui retirer ça.
Non, c'était très bien vu. Et je vous l'ai dit, c'était sa première sur scène dans ce monde d'après, donc face à un public masqué. Je lui ai demandé ce que ça changeait pour elle.
Souvent, je réagissais ou je faisais des interactions par rapport à la tête des gens. C'est-à-dire que là, je vois les yeux rieurs, mais je ne vois pas la forme du sourire, je ne vois pas les dents. Et parfois, sur justement certaines blagues qui peuvent peut-être plus ou moins choquer, je ne peux pas rebondir sur une réaction ou dire « ah bon, mais... » Donc c'est un peu particulier, mais en fait, pour moi, c'est quand même une chance en fait, de pouvoir jouer. Le public oublie le masque, je crois, à un moment. Les gens, ça ne les dérange plus, ils s'habituent. Donc c'est un retour à la vie, à un semblant de normalité.
Et je vous le confirme, hein, le masque, on l'oublie très très vite. Retournez dans les salles et pourquoi pas pour voir Rosa de Rosa Burstein. C'est tous les mercredis jusqu'en décembre au Point Virgule à Paris, les 12 et 13 octobre à Bourg-lès-Valence. Et d'autres dates vont suivre. Hein, vous, partout en France, vous pouvez suivre son compte Instagram.
Mais justement, elle ne joue pas masquée.
Non, bien
elle
sûr
elle parle
non.
comme ça, on
non,
la
non,
voit.
Non, c'est pour le public, mais vraiment, c'est pas gênant.
Vous êtes fan d'humoriste, est-ce que ce genre d'humour vous intéresse, Vincent McCain?
Oui, moi, je peux bien aimer, mais d'ailleurs, je crois que j'avais un peu rigolé. J'ai vu son compte Instagram où elle fait des petits personnages.
Oui, pendant le confinement, elle a été. En fait, elle n'était pas du tout habituée à faire ça sur les réseaux sociaux, et pendant le confinement, elle en a profité. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'elle fait.
Et c'est assez drôle, en fait. Voilà.
Et vous-même, vous êtes fan. Et vous-même, pardon, vous êtes fan d'Instagram.
Non, je ne suis pas forcément fan d'Instagram parce que j'ai un compte Instagram, mais je n'aime pas forcément voir les vacances de tout le monde. Ça me stresse un peu.
C'est pour ça que je n'ai pas de compte Instagram.
Non, moi j'en ai un, mais du coup je regarde, mais ça me fait du mal. Quoi, parce que je me dis merde, mais ma vie c'est de la merde. Donc je suis un peu
jaloux. Autant regarder des vidéos d'humour.
Non. Mais non, mais votre vie c'est pas de la merde.
Non,
mais parce que vous êtes là, restez avec nous, Vincent McCain, tout de suite. Calogero, ah oui, il fallait que je l'annonce. Musique maintenant, notre deuxième indispensable, c'est Clément Le Saffre.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Vincent McCain, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Il y a une chose qu'on dit et qu'on fait pas, ou plutôt que les gens font mais n'osent pas trop dire. Ils n'osent pas trop dire qu'ils sont fans des jeux vidéo. Sauf le jeune homme dans ce studio qui assume. Bonjour Clément Le Saffre.
Jouez aux jeux vidéo tous.
Ouais. C'est votre deuxième indispensable du jour. Vous jouez aux jeux vidéo, Vincent McCain, ou pas?
Plus maintenant, mais j'ai pas mal joué jeune.
Alors là, en fait, un anniversaire. C'est les combien? Un jeu vieux de 35 ans, Clément.
Oui, et pas n'importe quel jeu, un Super Mario Bros, peut-être le jeu le plus connu de l'histoire des jeux vidéo. Musique que tout le monde connaît forcément.
Et Louise danse en rythme. Vous avez joué aussi à Super Mario Bros ou pas?
Hein, qui va de droite à gauche.
Vous avez joué à ce jeu?
Jamais. J'ai jamais joué au jeu vidéo.
Mais vous connaissez quand même cette musique.
Et il sera temps de le redécouvrir puisque, donc, on l'a dit, Super Mario Bros fête ses 35 ans. Il était sorti le 13 septembre 1985 au Japon.
Il y a un cadeau d'anniversaire?
Oui, puisque Nintendo va ressortir en novembre le jeu dans une version collector en édition limitée. On peut déjà la précommander partout. L'occasion de réviser justement, Louise, ses classiques puisque Super Mario Bros, c'est le jeu qui a véritablement fait de Mario, petit plombier moustachu, une star planétaire. Et pourtant, ça n'a pas été simple au début.
Comment ça?
Nintendo a mis un peu de temps avant de trouver le bon profil de son héros, à commencer par le nom. Dans les premières ébauches de Shigeru Miyamoto, Mario s'appelait d'abord Monsieur Vidéo, tout simplement. Un nom qui n'a pas fait long feu, puisque lors de sa première apparition, voilà, c'était pas terrible, ils ont abandonné et ils ont appelé le personnage Jumpman, l'homme qui saute. Et c'était assez logique, puisque dans le premier jeu Donkey Kong, sorti en 81 sur borne d'arcade, Mario sautait. Voilà, les bruits quand ils sautent.
Il y a un truc que j'adore, c'est le son pourri en lofi. Ouais. J'adore.
C'est du vieux 8-bit. Ouais. Donc voilà, Jumpman à l'époque devait sauter pour secourir une princesse capturée par Donkey Kong en grimpant des échelles et en évitant des tonneaux jetés par le gorille géant. C'était sommaire, mais c'était un peu la préhistoire du jeu vidéo.
Et alors, quand est-ce que Mario s'est appelé enfin Mario?
C'était un an après, en 82, dans Donkey Kong Junior. Sauf que cette fois, Mario était le méchant. C'est la seule et unique fois que c'est arrivé dans le jeu. Il avait à son tour capturé Donkey Kong par vengeance. Et finalement, c'est en 83 que Mario hérite de son propre jeu. Il devient un héros dans Mario Bros.
J'adore ces musiques.
Alors, Bros comme Brothers en anglais, car dès le début, Mario est accompagné de son frère Luigi. L'un a une casquette rouge, l'autre a une casquette verte pour les différencier. Et ensemble, ils combattent d'étranges créatures dans les égouts. Mais à Shigeru Miyamoto, il n'est pas complètement satisfait. Il se dit qu'il y a encore moyen de faire mieux. Et il avait raison, puisque le résultat, c'est donc Super Mario Bros, un jeu de plateforme révolutionnaire pour l'époque qui exploite les capacités de la NES, la console de salon de Nintendo. C'est en couleur et c'est un jeu à défilement horizontal. C'est-à-dire que vous avancez et le jeu avance avec vous, et ça a popularisé ce genre qui est devenu un grand classique du jeu vidéo. Et à ce moment-là, Mario devient le personnage que l'on connaît tous, ce bonhomme en salopette qui saute, court, collecte des pièces pour secourir la princesse Peach des griffes du méchant Bowser. Simple, efficace, et quand même 40 millions de jeux vendus pour ce seul Super Mario Bros.
Et vous m'avez dit que Mario n'avait pas vraiment évolué en 35 ans.
Non, il a même pas pris une ride, c'est fort quand même comme exploit. Il a juste eu deux ajouts qu'on peut noter. Sa salopette est passée du rouge au bleu en 1988, c'est là qu'il a pris sa forme définitive. Et il a eu une voix. Mario ne parle pas vraiment, c'est pas un grand bavard, il s'exprime en onomatopée ou avec de courtes phrases toutes faites.
It's me, Mario.
Voilà, ça va pas chercher bien loin. It's me, Mario, on va se présenter tous comme ça maintenant. Ouais. It's me, Clément. Mais ça fait partie de la recette du succès de Mario, un simple prénom, pas d'origine connue, pas vraiment de voix non plus, on l'a entendu. Mario, c'est personne et tout le monde à la fois, en fait. C'est un héros auquel tout le monde peut s'identifier. Et la recette n'a pas changé au fil des décennies, au volant d'un kart, en docteur, avec ou sans son frère Luigi, contre les lapins crétins et même jusqu'aux confins de la galaxie, Mario est resté une référence pour des générations de joueurs.
Vous dites que tout le monde peut s'identifier, sauf peut-être les filles. Ça, c'est la musique d'un jeu moderne qu'on entend, mais pour ceux qui sont nostalgiques, comme peut-être Vincent McCain, vous jouiez à Mario, Vincent ?
Oui, j'ai joué à Mario.
Est-ce qu'on peut encore jouer au vieux jeu, à Super Mario Bros, par exemple ?
Bien sûr, Nintendo prend soin de ses pépites. Alors celui-là, c'est évidemment le plus connu. Le jeu est devenu culte, il ressort régulièrement sur toutes les consoles. On peut le télécharger sur la Switch, par exemple, la dernière console de Nintendo. Et on le disait en préambule, pour fêter ses 35 ans, Super Mario Bros ressort dans une édition collector. Il est intégré, en fait, dans une mini-console Game & Watch. La Game & Watch, c'était ce qui arrivait avant les premières Game Boy. C'était la première console portable avec un tout petit écran. Ça servait aussi d'horloge. Ouais. Eh bien, ça va ressortir dans une belle édition. Ça coûte 50€. C'est rétro à souhait.
On a entendu que le son était old school, mais est-ce que l'image va être un peu pourrie et pixelisée
non,
comme
pour
avant
le coup, ce sera un bel écran HD, image. Mais on gardera les graphismes pixelisés de l'époque.
D'accord. Donc, Julien, qu'est-ce qui vous plaisait dans Mario ?
Moi j'adorais, mais je me posais pas de questions. On avait ça, on jouait. Il y avait Zelda que j'aimais bien aussi, ouais. Il y avait plein de trucs. Street Fighter.
Et qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté ?
Je crois que j'en ai eu marre, et puis en grandissant, j'ai eu un déclic à passer des soirées comme ça à jouer. J'arrivais plus trop à comprendre
le monde.
Ma soirée. Enfin, je me disais, mais pourquoi on joue en fait ?
C'est une bonne question.
Jouer au foot, etc. Enfin, bref, j'ai eu une sorte de rejet d'un coup, quoi. Mais j'ai énormément joué.
Il n'y a pourtant rien de mieux aujourd'hui qu'une soirée Mario Kart.
C'est vrai ?
C'est les meilleures soirées que je passe.
Ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'il y a les deux avis irréconciliables. Merci d'avoir été avec nous, Clément Le Saffre. Vous restez avec nous, Vincent McCain. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est demain au cinéma. C'est un film d'Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Émilie Dequesne et Vincent McCain, notre invité. Prochain projet ensuite, parce que vous avez un calendrier, je ne sais pas si c'est à cause du Covid ou non, mais vous avez un calendrier chargé, un film en novembre, un film en décembre. D'abord en novembre, L'Origine du Monde.
Ouais, L'Origine du Monde de Laurent Lafitte. Ça, c'est une comédie qui est très très drôle.
Le pitch est assez incroyable parce que ça parle du fameux tableau de Courbet qui est au musée d'Orsay. Ouais. Mais c'est pas le tableau de Courbet. Racontez le pitch.
C'est dur à raconter, mais c'est le film est hilarant. C'est Laurent Lafitte, son cœur s'arrête de battre comme ça, et du coup il va voir une sorte de je sais pas comment expliquer désenvoûteur
ou un guérisseur
qui lui dit qu'il faut qu'il ramène une photo du sexe de sa mère pour le désenvoûter. Et donc du coup tout le film c'est comment ils vont réussir à photographier cette photo, enfin à prendre cette photo. Donc il fait appel à sa femme, à son meilleur ami, et ils sont tous à essayer de déshabiller cette femme.
Ouais, d'accord, et on ne comprend pas la suite. Et alors ça n'enchaîne pas du tout, mais en décembre, Médecin de nuit, là c'est tout à fait autre chose.
Ah oui, c'est un film d'Elie Wajman, qui est un film noir, qui est un très beau film sur un médecin de nuit dans Paris, et qui est une sorte de... Ça existe, qui prescrit des ordonnances, en fait,
Oui, c'est le principe des médecins, non ?
Non, excusez-moi, j'ai oublié le nom là de... du médicament.
Un médicament qui sert à quoi ?
Qui sert à arrêter de prendre de l'héroïne.
Ah, je vois très bien. C'est pas le Subutex ?
Ouais, voilà,
du Subutex de Vernon Subutex, c'est une émission de culture ici.
Voilà,
magnifique roman de Virginie Despentes.
Oui. Et donc il fait des ordonnances de Subutex et petit à petit il se rend compte qu'il est au centre d'un trafic que son cousin a organisé.
J'ai les dates, L'origine du monde, ça sera le 4 novembre et Médecin de nuit, ça sera le 9 décembre. Mais demain, le film s'appelle Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, film d'Emmanuel Mouret avec vous, Vincent McCain. Merci d'avoir été avec nous en direct dans cette émission. Nous demain, Culture Média, il y aura un documentaire fascinant que j'ai déjà vu sur l'accident le plus mystérieux du sport mondial, celui de Michael Schumacher. Personne ne sait ce qui s'est vraiment passé et c'était pas un accident de voiture mais un accident de ski. On va rester dans le sport, on va parler du Tour de France, on sera avec le commentateur Alexandre Pasteur et le journaliste Laurent Luya et puis Véronique Geneste, mais tout à fait autre chose, non pas pour son rôle dans les séries sur TF1 mais la reprise de la pièce Betty's Family. Maintenant c'est le flash, Anne Romanoff et sa bande, ça fait du bien, ça s'appelle comme ça. Je vous dis à demain, salut, merci d'avoir été avec nous Vincent.
Merci beaucoup, merci.
Europe 1 Culture Média.